6000 pièces. Gaël l'avait déposé en gare de Rennes. Le TGV avait quitté le quai en douceur et Édouard espérait en faire de même concernant son couple. Il choisit de somnoler durant le voyage pour se soustraire à ses pensées. Il arriva en gare de Montparnasse sans s'en rendre compte et se dirigea vers le métro qui le déposerait à République. Il n'avait emmené que le strict minimum, son double des clés, ses papiers, son téléphone. Sa femme, qui l'avait prévenu l'avant-veille, lui avait répondu qu'elle rentrerait pour déjeuner. Les rames clairsemées avaient déjà régurgité le plus gros des voyageurs du matin dans les couloirs et les rues de la capitale. Visages fermés, absents. Petites âmes humaines isolées dans leur bulle impénétrable. Comparé au silence mélodieux de la forêt, celui du métro glaçait les visiteurs inaccoutumés. Édouard l'était devenu en quelques jours. Tout grouillait autour de lui depuis son arrivée à la gare. La valse folle des anonymes qui couraient en tous sens, pléthore d'informations, de publicités, turbulences de lumière, de couleurs vives, de sons agressifs, brouhaha permanent, saleté, odeur âcre. Le bitume n'avait pas vocation à absorber la pisse comme s'en débrouillait l'humus. Il eut l'étrange sensation d'évoluer dans un monde moribond de sens, soumis à la quête effrénée d'en trouver un. Une société en état de fibrillation. Édouard savait que ce genre de symptômes, quand il était question du cœur, annonçait un arrêt cardiaque fatal. En quoi pouvait consister la réanimation d'une telle communauté? Assis sur un strapontin élimé, il ferma les yeux et s'exila dans l'herbe de la clairière, au pied du vieux tilleul. S'invita en lui un battement régulier et consolant, le chant rassurant des feuilles et du vent, le sourire de Gauvin, les branches satinées de Gaël, les mots désuets et les sabots de Raymond, un vieux chien calme, le silence de la nuit. De s'être fabriqué cette nouvelle carapace contre les bombardements sensoriels extérieurs, il respira mieux. La tortue avait rentré sa tête et ses pattes, elle attendait que l'orage passe, que le trajet se fasse. Revenir vivre à Paris le condamnait au même sort que Viviane, sur le dos, fragile et vulnérable. Comment l'expliquer à Armel? En se gardant bien de parler de Viviane, elle se moquerait de lui. Pourrait-elle accepter qu'il prenne ainsi conscience de s'être trompé toutes ces années avec elle? Il anticipait un choc violent et supposa qu'elle culpabiliserait de n'avoir rien vu, d'en être responsable, d'avoir participé au gâchis, ou lui en voudrait, à lui, pour sa malhonnêteté. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Édouard n'avait pas menti, sincère dans l'ignorance de ses aspirations véritables. Comme on jette des miettes au sol d'un revers de main sur la table, il avait balayé nombre de rêves et d'envies en renonçant à Élise. Le père de l'adolescente avait appuyé sur une touche de réinitialisation et il avait redémarré à 17 ans sur un nouveau programme qui écrasait le précédent sans plus jamais s'investir. Chagrin d'amour oblige, pour une autre femme avec la même force. Il faillit rater sa station. Il avait opté pour la ligne 4 qui le déposait à Strasbourg-Saint-Denis, avant de finir à pied, en remontant le boulevard Saint-Martin jusqu'à la place de la République. Il aimait la topographie de l'avenue, ses trottoirs qui dominaient la chaussée parfois 2 mètres plus haut, protégeant les passants des voitures qui roulaient en contrebas, à vive allure et sans discontinuer. Il eut une pensée triste en observant les arbres qui ponctuaient l'artère. Élancé et chétif, il semblait supplier l'infini du ciel d'échapper au trottoir. En regard de ce majestueux qu'il croisait autour de doux chemins, la fragilité de ces pauvres échoués faisait peine à voir. Là-bas, au creux de leur forêt, Édouard les imaginait enracinés dans une terre riche et naturelle, habités dans leur sève par la certitude d'avoir sous eux accès à la planète entière, pour quelques racines aventurières à qui il viendrait l'idée de s'émanciper. Ils avaient dû se faufiler entre les roches de schiste rouge, se mélanger au système radiculaire voisin, partager les richesses du sol, le nourrir en retour. Quel vaste monde souterrain s'offrait à eux sans limite, spacieuse liberté de leur immobilité. Sur ce boulevard parisien, les arbres étaient contraints et leurs racines se contentaient d'un espace réduit, prison de béton, de câbles, de tuyaux, de grilles métalliques. Seul le macadam en surface, craquelé et déplacé, faisait état de leur rébellion silencieuse et lente, affamés de cette liberté sylvestre. Et leurs feuilles, chaque automne, que des employés municipaux ramassaient, ne venaient pas enrichir la terre alentour ni alimenter leurs descendances qui n'avaient de toute façon aucune chance de prospérer. Elles finissaient dans des fosses communes, mélangées aux épluchures et à l'herbe coupée, affublées de cet insultant sobriquet de « déchets verts ». Un arbre ne produit aucun déchet, Édouard le savait. Il participe à l'éternel cycle qui fait du mort le vivant d'après et de la matière perdue un substrat gagné. Il se demanda si ces arbres avaient conscience de leurs conditions, de ce triste sort que de vivre en milieu urbain, s'ils souffraient de la pollution et du bruit. Il se mit à les saluer les uns après les autres, en apposant sa main sur leur tronc, en leur transmettant une intention positive et douce. Ce qu'il ressentit à leur égard s'apparentait à de l'affection. 4 avril 1986. Ce samedi de printemps est particulièrement doux. Élise ne m'a pas laissé le choix. Aujourd'hui, nous allons au parc des Gailleuls. Je n'ai pas vu mon arbre depuis trop longtemps.
Ton arbre? Tu as un arbre à toi, là-bas?
Aucun arbre n'appartient à personne. Ils sont libres et autonomes, mais lui, je l'aime. Il est mon compagnon vert, comme toi, chez les humains.
Tu vas me rendre jaloux.
Elle a souri sans répondre. Ses yeux me lancent. Tu peux toujours essayer, ça ne changera rien. Je l'aimerai quand même. En descendant du bus qui nous a déposés à proximité de l'entrée, elle me prend la main et m'attire derrière elle d'un pas rapide. Elle ne me lâchera qu'après avoir quitté le sentier pour s'enfoncer dans la forêt. Elle semble connaître l'endroit par cœur. J'ai du mal à la suivre. Je trébuche sur des morceaux de bois mort. Je m'accroche dans les ronces. Mon visage est fouetté par les petites branches terminales entre lesquelles nous nous faufilons. Elle semble se couler dans l'élément comme si elle en faisait partie. Soudain, sa main ne me tient plus, elle est partie en courant. Je m'arrête et la regarde se diriger vers un arbre dont le tronc est fortement penché. Elle y grimpe de façon gracile en agrippant ses mains autour de l'écorce rugueuse, puis s'allonge sur lui, en laissant pendre ses quatre membres de part et d'autre de la surface, comme un lion nonchalant dans un acacia de la savane. Elle a posé sa joue contre le bois et fermé les yeux. Je m'approche d'elle le plus silencieusement possible. Elle semble absorbée, lointaine, coupée de la réalité. J'en viens à me demander si elle n'est pas en pleine conversation avec l'arbre. Je suis à 50 centimètres d'eux. Il ne me reste qu'un pas avant de pouvoir la toucher. J'hésite. Ravi de la voir heureuse de ce moment et jaloux qu'elle accorde à un être végétal plus d'attention qu'à son petit ami. Je décide de m'immiscer dans leur conversation et je fais ce dernier pas, qui en est un premier pour lui signifier que ma jalousie n'est que l'envie de compter pour elle, et de compter plus qu'un arbre. Je l'embrasse sur la joue, ce qui la fait sourire un peu plus. Elle ne bouge cependant pas d'un millimètre. Pourquoi cet arbre en particulier?
Je ne sais pas.
Quand j'étais petite, nous nous promenions avec mes parents. Il m'avait laissé m'avancer dans la forêt et je suis tombée sur lui comme s'il m'avait appelé.
Je peux te retourner la question. Pourquoi moi?
Je ne sais pas non plus. Je l'ai su quand tu m'as regardé le jour de la rentrée.
Tu vois, ces choses-là ne s'expliquent pas, on les vit.
Là, contre lui, je suis bien, comme je suis bien contre toi.
Tu sais qu'il ne pourra jamais t'emmener au cinéma ou au bord de la mer?
Non, mais il me raconte autre chose.
Tu veux que je vous laisse?
Non, il t'aime bien.
Il te l'a dit?
Oui. Elle a ce piment de fantaisie, ce brin de folie, cet univers de joie qui ne sont pas les autres filles, rêveuse et sûre d'elle. Quelque chose d'inébranlable la tient droite et debout face au monde. Elle a envie d'aimer un arbre. Elle l'assume. D'autres garçons l'enverraient promener. Moi, je l'aime encore plus.
Édouard voyait en chaque souvenir qu'il avait relu avec émotion une raison supplémentaire de retrouver Élise et un argument imparable pour quitter Armel. Sa femme était insensible à la nature. Elle avait peur des petites bêtes, ne voyait aucune poésie dans le souffle des herbes folles et trouvait répugnant de marcher sur un chemin de terre boueuse. Il atteint leur immeuble au début de la rue Voltaire avec une sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique et l'effrayante perception de manquer d'oxygène. Il se demanda si son corps avait pu en si peu de temps modifier sa physiologie, au point de n'être plus adapté à la ville. Ses poumons, dotés comme en chaque être humain d'une adaptabilité remarquable, n'étaient pas en cause dans cette suffocation. 25 années de vie commune et un enfant comportaient quelques plombs lourds attachés au filet qui le retenait vers le fond. Il en avait détaché un certain nombre, dans le jardin de Raymond, au pied du tilleul, dans les automates, dans le lit de Gaël, dans la lettre d'Élise, puis dans ses deux fossettes en bord de mer. Il s'apprêtait à se défaire des derniers et non des moindres. La réaction d'Armel, le règlement des problèmes administratifs, la porte refermée sur son passé révolu. Il était temps, à 50 ans, de finir de distiller sa légèreté d'adolescent, celle qu'on lui avait confisquée sans lui demander son avis, ce qu'il avait accepté sans scier. Il souffrait plus aujourd'hui de cette lâcheté dont il avait fait preuve que de culpabilité à l'égard de sa femme. Situé au dernier étage, au-dessus du houppier des arbres, leur appartement les épargnait des bruits de la rue par la hauteur importante et le double vitrage. Il y était entré comme un soldat qui revient de la guerre et ne sait plus vraiment s'il est chez lui. Cet espace familier qu'ils avaient choisi ensemble lui sembla étranger. L'ordre, la propreté extrême. Armel lui reprochait souvent de trop laisser traîner ses affaires. À l'inverse, Édouard se sentait oppressé par ces appartements qu'on aurait dit témoins tant ils étaient rangés. S'il avait l'esprit vif et ordonné, son environnement l'était beaucoup moins. Il trouvait ces lieux sinistres et menaçants qu'il observait de leurs yeux emmurés et de leur parquet alerte à l'affût du moindre faux pas. Il ouvrit la fenêtre qui donnait sur la rue et ferma les yeux, comme le soir précédent à Doux-Chemin où il avait affronté la nuit. Des deux mondes, celui qui était bruyant et agressif l'effrayait désormais. Il s'étonna de s'en être accommodé jusque-là sans trop de dégâts, si tant est qu'il puisse ignorer la notion de temps perdu. Il referma la fenêtre et regarda l'heure. Armel n'allait pas tarder à franchir le pas de leur porte et elle n'avait que le temps du déjeuner. Il entreprit de le préparer en allant fouiller dans le frigo et les placards. Il n'y trouva que quelques œufs et de la salade verte. Une barquette de leur traiteur italien contenait des cœurs d'artichaut et des fèves assaisonnées. D'un reste de baguette sous plastique, abandonné sur le plan de travail, lui revint en mémoire l'odeur du fournil d'Antonin et le sac en tissu accroché au cheval. Il eut pitié de ce pauvre pain des villes. Voilà que je me prends d'empathie pour de la nourriture. Il mélangea les ingrédients trouvés en une salade composée, arrosée d'un filet d'huile de noix et de jus de citron et prépara le nécessaire pour y ajouter des œufs pochés le moment venu. Il dressait la table quand il entendit claquer la porte d'entrée, puis le bruit sec des talons sur le parquet. Des pas rapides, nerveux, qui bousculaient son rythme cardiaque, calme jusque-là, comme un chef d'orchestre exigeant et fou.
Bonjour. J'ai rapporté des lasagnes de chez le traiteur, il faut juste les réchauffer. Je ne pensais pas que tu ferais à manger, ajouta-t-elle en apercevant la table. Elle s'adressa à lui comme à un collègue de travail de façon neutre et détachée, sans même le regarder. Et déposa le sac en papier contenant le repas.
« Tu vas bien ?» demanda Édouard. « Ça va, et toi ?»«
Oui. »
Édouard n'osait pas l'approcher. Il la sentait électrique, prête à exploser.
« Je vais enlever mes chaussures. Elles me font un mal de chien. Tu mets dans des assiettes au micro-ondes ?»
Elle n'attendit pas la réponse. Les mêmes pas vifs et impatients s'éloignaient. S'il appréciait le galbe d'un mollet, l'allure élancée d'une silhouette sur des talons hauts. Édouard n'avait jamais compris la souffrance que s'infligeaient certaines femmes, une journée entière sur des pieds en captivité, que leurs geôliers vernis et étriqués torturaient sans vergogne. Ses victimes consentantes, Armel la première, ne s'autorisaient à gémir que dans l'intimité de leurs meubles à chaussures. Il pensa à la mousse sur le chemin qui mène à la clairière. Il avait besoin de cette douceur-là, et rien ne lui était offert de semblable dans cet appartement. Il se rendit au salon pendant que le four faisait tourner la première assiette, enleva ses chaussettes et fit quelques pas sur le tapis épais et moelleux devant le canapé.
« Tu fais quoi ?» lui lança-t-elle.
« J'essaie de me détendre. »«
Tu es nerveux ?»«
Il y a de quoi, non ?»«
C'est moi qui devrais l'être, tu ne crois pas ?»«
Tu l'es ?»
Je ne marche pas pieds nus sur un tapis de salon. » La sonnerie retentit à la cuisine et il n'eut pas le temps de réagir. Elle y était déjà pour enfourner l'autre assiette. Édouard se sentit idiot sur son tapis, à essayer de reproduire une sensation qu'aucun objet manufacturé ne pourrait jamais atteindre. Il anticipa la seconde sonnerie et entra dans la cuisine quand elle retentit. Armel était assise sur le tabouret haut du bar, en face de lui. Il sortit son assiette et s'installa en face d'elle. « Ne tournons pas autour du pot. Pourquoi es-tu revenu ?»«
Pour venir chercher quelques affaires et la voiture. »«
Tu repars ?»«
Oui. »«
Tu reviendras ?»
Non.
Armel n'avait pas la réaction qu'il avait crainte. Celle-ci était pire. Sa froideur et son détachement le déstabilisèrent. Elle venait de lui couper l'herbe sous les pieds en anticipant son annonce. Édouard en fut presque vexé. Ainsi ne lui faisait-elle pas de scandale quant à son départ d'une lâcheté ignoble, ni de scène théâtrale pour essayer de le retenir. Il se dit que Denis avait eu les mots justes pour la préparer, peut-être même les mots tout court pour lui dire que son mari la quittait. Ou alors, était-ce un mécanisme de défense, un état de sidération, l'indifférence brandie comme un bouclier face à la réalité?
« Tu m'en veux ?» essaya Édouard.
« T'en vouloir changerait quelque chose ?»«
Pas ma décision. »
« Tu veux que je t'explique ?»
Épargne-moi les causes, je subis déjà les conséquences.
Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire souffrir.
Non, tu n'es pas désolé. Tu as pris ta décision et tu sembles heureux. Ne dis pas que tu es désolé.
Et pour la suite?
Je ne sais pas encore ce que je vais faire ni où je vais habiter.
Je parlais de ce qui nous lie encore.
Ah.
Nous ne sommes pas mariés. Les démarches seront plus simples. Nous avons quand même l'appartement en commun et il reste presque 50 000 € à rembourser.
Armel mangeait vite. La même urgence de mâcher que de régler leurs affaires. Se débarrasser du dossier le temps d'un déjeuner. Une séparation au lance-pierre. Un autre mécanisme de défense, se dit Édouard.
J'ai été voir le notaire et le banquier. Je peux garder l'appartement et demander un étalement des mensualités pour qu'elle rentre dans mon budget, à la condition que je n'ai pas à te devoir ta part. Comme il dit, tu viens d'hériter d'une très belle somme d'argent pour la maison de ta mère et c'est toi qui quittes le couple.
Édouard trouva l'approche du dit notaire un peu raide, tout en réalisant qu'il était un ami des parents d'Armel. Certes, l'héritage maternel était important. Ses parents avaient eu l'intuition d'acheter très tôt une belle maison dans un quartier de Rennes, qui était devenu cossu avec le temps et qui avait doublé, voire triplé la valeur de l'immobilier. Par ailleurs, il n'imaginait pas infliger à Armel de quitter cet appartement auquel elle s'était attachée. Était-elle en situation de négocier? Il n'eut pas le temps de réfléchir. Elle revint à la charge.
« Il suffit de signer un papier du notaire afin de renoncer à ta part. »
« Tu sembles avoir déjà tout réglé.
Que crois-tu ? »
Que j'avais l'espoir d'un retour vu la façon dont tu m'as quitté.
J'ai bien senti que tu étais différent pendant les vacances. Tu avais la tête ailleurs. Je suppose que c'est pour une autre femme.
Édouard ignorait ce qu'il devait répondre pour ne pas l'assommer plus encore. Il s'était toujours demandé si une femme souffrait plus d'être abandonnée pour une autre ou d'être le plan A qu'on quitte sans plan B.
De toute façon, rien ne te fera revenir sur ta décision, n'est-ce pas ?
Non.
J'ai compris beaucoup de choses, tu sais. Je suis désolé de t'avoir fait du mal en partant si violemment.
C'est peu de le dire.
Et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Bref, tu peux emmener ce que tu veux.
Je ne vais prendre que mes affaires et la voiture.
Tu es d'accord pour l'appartement?
Tu me laisses le choix?
Tu m'as laissé le choix de ton départ.
Et si je dis non?
Je prendrai un avocat. L'abandon de domicile et la violence des faits devraient jouer en ma faveur.
Je pense que tu préfères que les choses se passent bien entre nous.
Quelle adresse dois-je transmettre au notaire ?
Armel attendit qu'il finisse d'inscrire les coordonnées de la chambre d'hôte sur le bloc-notes de la cuisine, avant d'ajouter qu'elle n'avait pas besoin de rester pour l'aider à rassembler ses affaires et qu'elle avait beaucoup de travail.
Il pouvait laisser le double des clés dans le vide-poche de l'entrée et claquer la porte derrière lui. Elle repartait déjà. Édouard ressentit un sombre mélange de colère et de lassitude. Il ne s'attendait pas à un tel accueil, un tel plan comptable. Elle avait déjà tout prévu et une négociation n'était pas recevable. Il ne comprenait pas le mécanisme qui avait pu opérer chez Armelle pour qu'elle soit à ce point catégorique et cinglante. Elle qui minaudait toujours. Elle avait déjà ouvert la porte de l'entrée quand il s'avança vers elle. J'ai une dernière question avant que tu ne repartes.
Oui.
Est-ce que tu sais comment on fait entrer une pomme entière dans une bouteille de liqueur? Elle trouva la question ridicule, n'avait pas la réponse, faute d'y avoir réfléchi, et elle s'en fichait complètement. Elle se retourna et claqua la porte derrière elle sans un mot.
Voilà.
Ainsi était-ce aussi simple. Il se demanda si elle ne s'en sortait pas mieux que lui et trouvait injuste d'endosser toute la responsabilité de la séparation et d'y laisser, à l'occasion, une bonne partie de ses biens. La vie du notaire était à la fois argumentée et irrecevable. Édouard pensait qu'on gardait la liberté de mettre fin à un couple sans y abandonner des dizaines d'années d'économie. Quand bien même ils bénéficiaient chacun d'un matelas pour rebondir, l'héritage avait bon dos. Il se refusa à des comptes d'apothicaire et songea à Gaëlle, qui était repartie avec trois fois rien, heureuse malgré tout. Sa femme n'en serait pas capable. Soit. Armelle marchait d'un pas tonique vers la bouche de métro, elle slalomait entre les déchets divers qui auraient pu salir ses talons. Un sourire satisfait ne quittait pas son visage. Il n'avait opposé aucune résistance, elle qui s'était préparée à de longs arguments, voire à lui sortir le grand jeu de l'épouse éplorée. Il faut dire que la carte notaire était imparable. Il ne lui restait plus qu'à le contacter pour qu'il enclenche les démarches administratives et prépare les papiers. Le plus tôt serait le mieux, avant qu'Édouard ne change d'avis. Elle ignorait qui il côtoyait et sous quelle influence il pouvait se trouver. Armelle se sentait légère. Hormis la douleur de ses pieds qui lui rappelait qu'elle touchait le sol, elle aurait pu croire qu'elle flottait sur un nuage à quelques centimètres au-dessus du macadam. Elle ne devait parler à personne de cette petite victoire d'orgueil. On pourrait attirer son attention sur cette répartition quelque peu injuste. Bien sûr qu'elle l'était, mais puisqu'il l'acceptait. Tout est injuste sur cette terre, se dit-elle. La nuance de beauté entre les femmes, d'intelligence, de richesse, de situation sociale. Pour une fois qu'elle était gagnante. Il restait à Édouard la lourde tâche de rassembler ses affaires en veillant à ne rien oublier. Il abandonnerait les clés derrière une porte claquée, qui ne serait alors plus la sienne. Il commença par un message à Élise. Quitter Paris pour la retrouver permettrait peut-être de dissiper le malaise. Il était prêt à avaler 5 heures de route pour atteindre la station balnéaire bretonne. Elle répondit alors qu'il terminait sa première valise.
Dînons ensemble, peu importe l'heure. Sois prudent surtout. Je me réjouis, tu sais.
Il n'était pas sûr de devoir emporter ses costumes. Il envoyait mal la destination dans une forêt, un atelier, un bord de mer. À quoi bon les laisser? Il les ferait essayer à Gauvin et il s'en amuserait. Édouard parcourut la bibliothèque à la recherche de quelques livres importants. L'intégrale de Fred Varga, Les Miniers, Tilliez, Le Lambeau de Philippe Lançon, qu'il voulait relire, quelques classiques. Le coffret de Brel, celui de Brassens, quelques BD des Tuniques bleues, c'est Lucky Luke. Il vida les tiroirs de son bureau, des documents professionnels et familiaux dont il aurait besoin, puis parcourut l'album photo familial. Il y décrocha quelques photos de Pauline et sentit dans son cœur une brusque déchirure qui lui coupa le souffle. Il s'assit pour chercher sa respiration. Un seul remède, appeler sa fille, entendre sa voix, se laisser consoler par sa candeur et sa légèreté.
« Papa ?
Papa, ça va ?
Je prends mes affaires dans l'appartement, tu sais. »«
Oh !
Tu t'en doutais ?
Un peu.
Maman le sait ?
Oui.
Tu vas aller où ?
Pour l'instant, je retourne en Bretagne.
Mais ton boulot ?
Je vais peut-être le quitter aussi.
Tu me gardes, hein ?
À ton avis ?
Je pourrais venir te voir ?»
Il l'embrassa, raccrocha, se leva. Les enfants sont un oxygène puissant. Après deux allers-retours vers le parking situé dans la rue adjacente, il comprit que son passé tiendrait dans un 4x4. Bon signe, désespérant. Il chassa le dilemme, ajouta dans un grand sac en plastique tout ce qui pourrait lui être utile à Brocéliande. Une frontale, sa vieille boussole, un ciré. Édouard ne put renoncer à son doudou et sa tirelire de gosse, les quelques bijoux de sa mère, le jeu d'échecs de son père. Il s'assit une dernière fois dans le canapé et regarda autour de lui pour réfléchir à ce qu'il aurait pu oublier. Il pensa alors à ce vieux puzzle dont il ne s'était jamais séparé et qui devait être dans un tiroir du buffet. Comment avait-il pu l'oublier? Il se leva d'un bond pour vérifier, il était là. À la place qui avait toujours été la sienne depuis leur emménagement, comme un totem invisible. Un Ravensburger de 6000 pièces reproduisant un tableau de Bruegel, les jeux d'enfants. Il se rassit en posant la boîte en carton sur ses genoux. Il savait qu'au milieu de l'amas de pièces se trouvait le petit mot de son père, qui avait accompagné le cadeau et surtout le journal d'Élise dans l'enveloppe en papier kraft qu'elle lui avait tendue la dernière fois où il l'avait vu. Il les relut, un ciel d'hiver dans les yeux. Il avait passé des jours à faire ce puzzle durant les vacances d'été après le bac. Des jours à trier les pièces par couleur sur des morceaux de carton solide qu'il pouvait empiler pour que le sol de sa chambre soit praticable. Construire d'abord le tour, chercher les détails, essayer certaines pièces, les reposer pour en essayer d'autres. Cette activité l'avait consolé, lui qui s'était senti en 6000 morceaux après le départ d'Élise. Il se rassemblait à chaque pièce trouvée. Il referma la boîte, laissant ainsi le couvercle lui offrir l'image du tableau. Des enfants qui jouent, l'insouciance. En le terminant du haut de ses 17 ans, il avait acquis la certitude qu'il quittait l'enfance, cette boîte de puzzle en ultime vestige. Il la posa sur le dessus d'un des sacs, fit un dernier tour de l'appartement comme on inspecte sa chambre d'hôtel. Il y laissait les rires de Pauline et les sapins de Noël, les soirées entre amis et quelques nuits d'amour heureuses. Il y laissait des souvenirs emberlificotés, des bons et des mauvais, dont le tri était impossible. Un sac sur les épaules, une valise et deux sacs en plastique obèses à ses pieds, il s'immobilisa sur le palier, tourné vers cette porte encore ouverte, les clés accrochées au mur de l'entrée. Il vérifia que ses poches contenaient bien ses papiers, son téléphone, les clés de sa voiture. Il inspira longuement et la claqua. Il revenait d'un voyage en correspondance vers une nouvelle destination, habitant anonyme d'un no man's land. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas de chez lui. Il en éprouva un sentiment grisant de liberté et tout autant de vide. Un horizon offert et vaste à perte de vue. De quoi s'aventurer, de quoi se perdre aussi. Il dévala les escaliers, emporté par le poids des bagages. Une fois le porche de l'immeuble franchi, l'activité grouillante du boulevard lui parut stimulante malgré l'urgence de la fuir. Il s'arrêta chez le chocolatier, puis chez le caviste, quelques mètres plus loin. Il ne pouvait pas arriver chez Élise le cœur plein et les mains vides. Il y aurait son amour dans la boîte de chocolat, son amour dans les bulles de champagne. « Je me réjouis aussi, tu sais. »